Alors, on va faire une lecture et je vais parler plus fort. On va faire une lecture de la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 20. 2e Chroniques chapitre 20 dans l'Ancien Testament, les versets 17 jusqu'au verset 25. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. En cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils Kehatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et Jérusalem, et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait des chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Et les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent cédèrent, et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Amen. Nous aimerions parler d'un sujet ce matin qui dit la responsabilité du chrétien dans le repos de Dieu. La responsabilité du chrétien dans le repos de Dieu. J'ai eu le privilège un jour que j'avais aidé une sœur qui était venue vers moi pour qui avait beaucoup de problèmes. Elle était venue vers moi pour l'aider, pour prier avec elle, et face à différents problèmes qu'elle confrontait à cette époque. Elle était dans l'humiliation, des dettes, et sans compter des problèmes de foyer. Des problèmes qui se sont des graves problèmes. Elle a besoin de vendre quelque chose pour se remettre, pour se reprendre économiquement. Mais chaque jour, elle attendait une délivrance, mais ça n'a pas marché. Elle était particulièrement troublée, un peu agitée intérieurement. Alors, prier avec quelqu'un qui est agité, c'est vrai, c'est une bonne chose. L'Esprit de Dieu peut faire le travail dans son cœur ou dans sa vie. Mais aussi, de l'aider à se placer dans le repos de Dieu, c'est quelque chose aussi extrêmement important pour que la prière aussi puisse porter du fruit. Alors j'avais tout d'abord commencé par la poser quelques questions par rapport à la création. Et j'étais allé dans la Genèse pour commencer par poser à cette sœur beaucoup de questions pour la demander pendant la création quelque chose que Dieu a créé avant. Donc tout le monde sait que avant c'était la lumière qui fut diffusée. Alors je lui parle du premier jour, je lui parle du deuxième jour, le ciel. On commence à partir, on visite un peu la création, les jours de la création. Et on parle jusque pour la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, jusqu'à ce que on est arrivé à l'avant-dernière créature où Dieu a créé les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les oiseaux de la mer et les bêtes des champs. Alors, on est arrivé jusqu'à la dernière créature. Donc, la dernière créature, ce fut l'homme. Alors, je commence par la poser certaines questions. Et quelle est la créature où Dieu a créé en dernier? Elle était très intelligente, elle a appris vite, elle m'a dit que c'était l'homme. Mais je dis que, est-ce que vous pensez que si Dieu avait besoin de l'aide de l'homme, aurait-il créé l'homme en dernier? Elle m'a dit non. C'est parce que Dieu n'avait pas besoin de l'aide de l'homme. C'est pour cela que Dieu avait créé l'homme en dernier lieu. Alors, quand il m'a dit que Dieu avait créé l'homme en dernier lieu, j'ai dit, bon, c'est vrai, mais est-ce que Dieu avait besoin de l'aide de l'homme pour l'aider à bien étendre le ciel dans l'espace, que l'homme puisse tenir un bout, Lord Dieu, un autre bout pour bien étendre le firmament, etc., et que ça ne va pas tomber sur nos têtes? Elle m'a dit, non, Dieu n'avait pas besoin de tout ça. J'ai dit, donc, c'est que Dieu a créé l'homme en dernier lieu, c'est juste pour que l'homme puisse entrer en possession de ce que Dieu avait créé pour lui. Elle m'a dit, oui, c'est parfait. Dieu a créé l'homme en dernier lieu pour que l'homme puisse entrer en possession, dit même avant même le péché. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à l'homme de verser? De jouir, de prendre soin dans le jardin d'Éden. Tout était beau, parfait, agréable, extraordinaire. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de difficulté. Elle m'avait dit oui, exactement. Parfait. Donc, c'était comme ça. Je dis que donc, Dieu a créé l'homme dès le début pour que l'homme soit totalement dépendant de Dieu, de sa protection, de son amour, de sa charité, avec une totale dépendance de Dieu. Alors je l'avais dit que, donc, voilà que, il est vrai, dans le jardin d'Éden, l'homme a été chassé à cause du péché. Et c'est à cause du péché de cette nature adamique, ou parfois dans des difficultés, dans des problèmes où l'homme est agité, voulant prendre les choses en main, de chercher à faire ce que Dieu peut lui-même faire. Que dans des situations que nous ne pouvons rien faire, où on est agité intérieurement, on court ça et là, on cherche tous les noms dans notre intelligence, tous les moyens de planification pour s'en sortir. Alors je dis que ce que vous allez faire, ma sœur, c'est essayer de couper tout en ce qui concerne ta responsabilité dans le problème que vous êtes en train de confronter. Alors, je commence par aller d'abord dans Matthieu chapitre 11, verset 28, que le jour même où Dieu nous appelle à la conversion, où Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dis, c'est vrai, le premier repos que le Seigneur aimerait nous donner, c'est un repos spirituel. De savoir que nous ne pouvons rien faire pour notre salut, que nous ne pouvons rien faire pour marcher et avec Dieu, mais en se remettant à Dieu, Dieu va venir dans notre vie pour que lui-même, il vit sa vie en nous. C'est de la même manière que Paul nous a dit que si je vis, alléluia, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que nous devons mener dans le Seigneur, c'est pas une vie que nous-mêmes pouvons mener avec nos comportements charnels, mais c'est Christ qui peut vivre cette vie en nous. Alors, je commence par, c'est pour cela que j'avais allé dans Hébreux, chapitre 4, avec cette sœur pour l'expliquer et sa responsabilité dans le repos de Dieu, où Hébreux, chapitre 4, verset 9 à verset 11, nous dit qu'il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous entrer dans le repos de Dieu. Alors, le thème grec qui traduit ce mot, ce repos dans Hébreux chapitre 4, veut dire reposer de ses œuvres. C'est le repos, c'est-à-dire quelqu'un qui a fini de travailler. Certains qui a fini de bagarrer avec les choses et qui n'en peut plus maintenant a fini avec ses propres œuvres et qui entre dans le repos de Dieu. Alors, quand nous voulons prendre les choses en main, Dieu ne peut rien faire. Et pour reposer, il faut être fatigué. Hier soir, j'étais très fatigué après avoir passé beaucoup de jours de décalage de l'horaire et je commence à rentrer dans le cycle. J'étais fatigué, je voudrais préparer le message, je n'arrive pas à tout finir. Je dis, bon, finalement, il y a le frère Serge avec sa femme qui allait m'emmener. Je vais leur laisser un message vocal rapidement pour aller au lit parce que j'étais épuisé. Je n'en peux plus. Donc, c'est pour cela qu'il y a des moments où vous êtes en train de bagarrer avec les problèmes de la vie, avec les difficultés. Ce que Dieu fait, Dieu croise les bras et vous laisse bagarrer. Il croise les bras et parce que Dieu sait que le problème que vous êtes en train de confronter, la situation que vous êtes en train de vivre, vous ne pouvez rien faire dans cette situation. Il y a seulement lui qui peut vous faire s'en sortir. Il y a seulement lui qui peut vous aider. Il y a seulement lui qui peut vous aider de votre ennemi là qui est en train de finir avec vous, qui est en train de vous dénigrer. Il faut accepter de le pardonner, de cesser de troubler dans votre cœur, de remettre la chose à Dieu. Si Dieu veut qu'il soit tout finir avec vous, vous ne pouvez rien faire. Mais comme Dieu nous promet en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, il va finir par prendre les choses en main une fois que nous lui remettrons les choses. Il va finir de nous délivrer. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il nous explique les personnes qui peuvent trouver le repos. Les personnes qui peuvent trouver le repos, ce sont des gens fatigués, épuisés, qui arrivent au bout, qui ne peuvent rien faire. dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il dit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et c'est pour cela que j'ai pris l'exemple de Josaphat. L'exemple de Josaphat. Lorsque Josaphat a entendu, à partir du verset 1er, une mauvaise nouvelle, une nouvelle terrible, parce qu'il y a des nouvelles que vous entendez, cette nouvelle peut mettre dans la pensée que vous n'avez aucun espoir de vivre. C'est fini pour vous. Une multitude nombreuse s'avance contre Josaphat. Les fils de Moabit, les fils d'Ammonite, les habitants de Séir, il y a une coalition comme une multitude qui s'avance contre Josaphat pour détruire le peuple de Juda, pour détruire le peuple de Josaphat, pour détruire le peuple de Jérusalem. Lorsque Josaphat a entendu cette parole, cette nouvelle terrible, Josaphat a fait le bon choix. Quel est le choix que Josaphat avait fait? Josaphat, dans sa frayeur, d'après le verset 3, se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne dans tout Juda. Le plus souvent, vous ne voulez pas entrer dans le repos de Dieu en remettant à Dieu la situation, en remettant à Dieu le problème. Lorsque Josaphat commence à prier, l'Esprit de Dieu a saisi ce prophète dans la foule pour commencer à prophétiser. Josaphat a prié, Josaphat voulait remettre les choses à Dieu, et l'Esprit de Dieu a saisi Jacaziel, fils de Zacharie, pour dire à Josaphat dans le verset 17, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel. » Il y a des choses que vous êtes en train de bagarrer avec ces choses. Vous êtes en train de vous bouleverser avec ces choses. Vous ne savez pourquoi que les choses ne sont pas encore, ces problèmes ne sont pas encore résolus. C'est parce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose dans ces problèmes. C'est parce que vous n'avez pas encore les remettre à Dieu. Mais le jour où vous les remis à Dieu, ça va être résolu. Donc c'est pour cela que vous êtes en train toujours dans ces situations bouleversantes et vous commencez à devenir dépressif parce que vous avez trop de problèmes dans la tête, trop de responsabilités dans la chose que vous êtes en train de se bouleverser. Et Dieu a dit à Josaphat, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Josaphat a eu confiance en la parole de l'Éternel. Josaphat qui était bouleversé, Josaphat qui avait de la frayeur, maintenant Josaphat entre dans le repos de Dieu. Alléluia. Intérieurement, Josaphat a eu le calme. Josaphat a eu la paix. Il entre dans le repos de Dieu. Et en entrant dans ce repos de Dieu, Josaphat même, pour la première fois dans l'histoire, une chose pareille s'est passée. Un roi, un général qui va à la guerre, au lieu de prendre des positions stratégiques avec des armes de destruction massive, avec des armes automatiques pour éteindre le souffle de l'ennemi, Josaphat, sa stratégie à lui, c'est de mettre la grande chorale de l'Éternel devant l'armée, commencer à chanter, louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours, louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours, louer le Dieu d'Israël, louer le Dieu de Jacob, louer le Dieu d'Abraham, car sa miséricorde dure toujours. Au moment où Josaphat entre dans ce repos et a placé la chorale de l'Éternel devant l'armée,
les âmes. Donc, c'est comme si on met les âmes de la tête dessous, de la tête qui devrait être en face de l'ennemi, on met la tête des âmes dessous. Donc, les épées sont dans leur fourreau. Alors, Josaphat avance avec les deux mains. Les âmes ne sont pas pointées vers l'ennemi. Ils n'ont pas ciblé rien. Et ils commencent dans ce repos, commencent à chanter le nom de l'Éternel. Et c'est pour cela que j'avais donné ce titre. Quelle est la responsabilité du chrétien dans le repos de Dieu? La responsabilité du chrétien dans le repos de Dieu, c'est de chanter des cantiques. C'est de prier. C'est de dépendre à Dieu. C'est de se laisser Dieu faire. Le plus souvent, avec notre nature adamique, nous aimons toujours de prendre les choses en main. Nous pensons que par nous-mêmes, nous pouvons résoudre les situations que Dieu seul peut résoudre. Alors, c'est pour cela que dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 12, lorsque Josaphat dit « Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Nous ne savons que faire. Le plus souvent, quand nous ne savons que faire, et que nous fixons les yeux sur Jésus, Jésus lui-même, il sait ce qu'il devait faire. Donc, vous ne savez, c'est pour cela, vous ne savez pas du tout par quelle direction Dieu va passer pour répondre à nos prières. Mais Dieu lui-même, il sait. Et il passera quand même. Alléluia. Il passera quand même. Alors, moi, j'ai toujours fait cette expérience à Dieu. Et après avoir aidé cette sœur, moi-même qui l'avais aidé, j'ai pris aussi une leçon. Tout de suite, après avoir parlé avec elle, où elle entre dans le repos, je lui dis, remets toute la chose. Dieu a tout fait pendant la création. L'homme devrait rentrer dans le repos de Dieu, vivre et prendre possession de ce que Dieu a déjà fait et planifié d'avance. Alors, lorsqu'elle entre dans le repos, quelques semaines et quelques semaines après, c'est elle maintenant qui m'appelle. Oh, ce que j'avais voulu de vendre depuis plusieurs années, qui n'a pas pu vendre, oh, quelqu'un était venu vers moi. La personne a beaucoup aimé ce que j'avais voulu lui vendre, cette maison-là. Donc, je l'avais vendu d'un prix que je n'avais pas pensé. J'ai le moyen maintenant de payer toutes mes dettes. Mes enfants commencent à être venus gentils. Le comportement de mon mari commence à changer. Ah! C'est des choses extraordinaires quand on est dans le repos de Dieu. Mais quand on n'est pas dans le repos de Dieu, vous pouvez devenir dépressif, vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez avoir des difficultés, parce que intérieurement, vous êtes agité. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose de par vous-même. Et si je dois souhaiter à cette assemblée, ce matin, un bon souhait, c'est que tout le monde qui est agité intérieurement, qui sont troublés intérieurement, d'entrer à partir de ce moment dans le repos de Dieu. C'est le plus important. C'est d'entrer à partir de ce moment dans le repos de Dieu. Remettre votre ennemi à Dieu. Remettre la situation de ton emploi à Dieu. Les soucis que vous avez dans votre emploi, dans les soucis que vous avez dans le foyer, dans tous les domaines de la vie, remets-les à Dieu. Dépends de Dieu et rentre dans la consécration. C'est ça qui peut vous délivrer. Moi, j'ai toujours fait cette expérience à Dieu. Quand j'ai un problème particulier qui me trouble, qui me bouleverse, mon problème ne va jamais résolu autant de fois que je n'arrive pas à trouver un état de grâce pour que je cesse d'agiter. Une fois que j'ai la peur, je suis troublé, donc je suis agité. Je me souviens, dans l'année 94, 94, on dit ici en Suisse, dans l'année 94, je devrais payer ma maison. Mais comme
le propriétaire avait eu de la patience pour moi. Je peux pas trouver l'argent pour payer la maison. Parce que chez nous, on paye chaque année une somme d'argent pour toute l'année pour la maison. Quand je vais payer la maison, j'avais donné un rendez-vous au propriétaire. Je n'ai pas trouvé l'argent. Et c'est pas facile que le propriétaire peut attendre un mois de patience. Ça, c'est un miracle de Dieu. Le mois est arrivé. Je suis agité, je suis troublé. Et puis, lorsque je vois que je n'ai pas d'argent, j'étais allé auprès du propriétaire. Je lui demande encore une patience un délai d'un mois. Le délai d'un mois est passé. Ça n'a pas marché. Et le troisième mois, je lui demande, après le deuxième mois, un délai encore d'un mois. Et le troisième mois, c'est fini. On va amener le juge de paix, la police, pour venir mettre tout dehors, pour me mettre à la porte. Parce que 3 mois, c'est fini. Je suis intérieurement agité lorsque je vois, je suis dans la dernière semaine des 3 mois, parce que dans mon quartier, parfois, beaucoup de gens, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'emploi. Donc, lorsqu'il y a un drame comme ça, tout le monde est venu se regarder. Je n'ai pas besoin que les gens puissent savoir ma situation. Ce qui me trouble, il y a encore là une honte à l'intérieur de moi, du trouble à l'intérieur de moi. Je commence, parfois, je pleure en priant. Je pleure à chaudes larmes. Je demande à Dieu, il faut que tu interviennes pour moi. Sans quoi, c'est fini. C'est un avilissement. On va venir parce que je suis pasteur dans la région. Tout le monde sait qui je suis. Et je parle de grand Dieu. Mais lorsqu'on voit que le juge de paix, la police est venue pour me mettre à la porte. Mais où est mon Dieu? Et je commence à pleurer. Et lorsque je vois, c'est un mercredi que je devrais payer la maison. Et le week-end a passé. Même le dimanche, je croyais que même en allant à l'église, il y a un miracle qui va se faire. Aucun miracle n'est produit le dimanche. Et le lundi, j'étais allé à la montagne pour prier 6 heures du matin pour 6 heures du soir pour voir si je peux trouver l'argent. Et puis pendant que je passe toute une journée à prier, le soir, j'étais arrivé chez moi, je demande à ma femme, est-ce qu'il y avait un miracle qui s'était produit? Elle m'a dit, bon, j'étais là depuis le matin, il n'y a aucun miracle. On dit, oh mon Dieu, il me reste mardi. Mardi seulement, il me reste. Qu'est-ce que je vais faire? Et le mardi, j'étais allé auprès d'un ami, condisciple, qui travaille à la banque. Je disais que peut-être quand je vais arriver à la banque, peut-être Dieu pourrait toucher quelqu'un qui est venu débloquer une forte somme, etc. Et j'étais allé auprès de mon condisciple, mais depuis dans la barrière, les sécurités, parce que chez nous, il y a des sécurités avec de grosses armes qui surveillent la porte de la banque. Ils m'ont dit que, oh, le monsieur n'est pas venu travailler aujourd'hui. J'ai reboussé le chemin pour retourner chez moi et j'ai passé toute la journée. Donc, en rentrant chez moi au soir, il n'y a pas de miracle. Et je commence par pleurer. Je commence par prier. Je ne peux pas manger. Mon estomac est bouché, est bloqué. Je ne peux pas manger parce que demain, je devrais payer la maison. Sans quoi, la police, le juge de paix vont venir. Et pendant le soir, les enfants dorment. Ma femme dormait. Et moi, j'apprends le couloir de la maison et puis je prie. Mais agité et troublé intérieurement de ce qui pourrait se passer demain. Et pendant que j'ai fini de prier, je pleure, je prie, je pleure et je suis épuisé. Je ne mange pas. Et voilà, j'ai passé toute la journée extérieure à marcher. Et pendant que je me suis assis au bord du lit, et il y a le sommeil qui va venir, et j'entends une voix qui me parlait, et qui chuchote tout calme. C'est comme si une voix audible qui me parlait, et dans mon cœur, je sentais la voix qui me parlait tout doucement. Le soir, viennent les pleurs, le matin, l'allégresse. Je me souviens que j'avais lu ce verset dans un psaume.
Et puis je vais, je dis, dans le psaume, je vois que le psalmiste a dit, le soir, viennent les pleurs, le matin, l'allégresse. Je dis, ah, il y a des larmes dans mes yeux ce soir. Demain, Dieu va faire un miracle. Dieu ne parle pas pour gratuit. Il va faire quelque chose. Et puis la paix est revenue. Les troubles sont partis. Le calme est venu. Autant de fois que le calme, c'est cette expérience que j'ai faite toujours en Dieu. À chaque fois que j'ai des problèmes, le calme n'est pas encore venu, c'est que la prière ne va pas encore répondre. Mais le jour où Dieu va répondre à ma prière, il me donne la paix. Il me donne le calme dans mon cœur parce qu'il va passer à l'action. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allé à 4 heures du matin parce que je devrais faire une étude biblique dans une prière du matin. Et j'étais allé sur un terrain où beaucoup de gens sont réunis pour prier du matin. Et j'avais fait mon étude, j'étudie la parole de Dieu avec les gens. Et après, il y a une voix qui me dit, il y a un ami, un collègue, un pasteur, mais un pasteur qui a plus d'âge que moi. J'étais très jeune à l'époque. Et que ce pasteur, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Dieu a mis dans mon cœur de le visiter. Et j'étais allé le visiter comme ça. Et quand je suis rentré dans la maison du pasteur, c'est pour la première fois que le pasteur m'a donné tel accueil. Il est venu depuis devant la barrière pour me saisir dans ses bras. Comment ça va, Léopold? Je vais bien. Et en s'asseyant dans son salon, il me dit, mais tout va bien? Je dis, oui, tout va bien. Il dit, mais je connais qu'à pareille époque, et ça fait quelques mois, tu devrais toujours payer ta maison. Et ça a été bien passé. Il dit, au contraire, là, j'ai un rendez-vous à 10 heures du matin. Et donc, je ne sais pas, c'était à 8 heures que le pasteur me parlait. Mais ça n'a rien à marcher jusqu'à... Oh, rien n'a pas marché. Il dit, attends-moi. Elle est partie dans sa chambre. Il est parti dans sa chambre. Il avait un niveau, c'est-à-dire une maison de deux niveaux. Et en retournant, il m'a apporté une enveloppe d'argent que c'était suffisant pour payer la maison. Et en plus, j'avais trouvé une petite somme en plus que ma femme avait déjà 4 mois enceinte, que je n'avais pas d'argent pour l'envoyer à l'hôpital. Je puis avoir de l'argent en plus pour envoyer ma femme à l'hôpital. Vous voyez comment, quand on entre dans le repos de Dieu, Dieu prend les choses en main. Si vous désirez que Dieu prenne les choses en main pour vous ce matin, il faut croire à cette parole, d'entrer dans le repos de Dieu. Nous allons prier juste pour tous ceux qui aimeraient toujours trouver un état de grâce, de remettre les choses. Ce n'est pas quelque chose que la nature a d'amé, que l'ennemi va vous laisser faire, que la chair va vous laisser faire. Mais Dieu peut vous donner, par son Saint-Esprit qui vit en vous, un état de grâce de remettre les choses à Dieu. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta grâce infinie, pour ton amour infini. Seigneur, nous savons que vivre pour toi dans ton repos, ce n'est pas quelque chose que la chair, le moi, la nature adamique va nous permettre de faire. Mais cependant, si c'est toi, Seigneur Dieu, qui est avec nous, nous allons être capables, Dieu Tout-Puissant, d'effectuer ces choses en ton nom. Je bénis, Seigneur Dieu, ton nom. Et que je te prie de donner grâce à chaque personne qui est présent ici, Seigneur Dieu, qui pourrait être agité, parce que parfois, Seigneur, il y a des problèmes qui nous dépassent, il y a des situations que nous ne pouvons rien faire. Mais Seigneur, le moi en nous, cette nature adamique en nous, ce poison que nous avons reçu dans le jardin d'Éden, nous excite. Nous pousse, Seigneur Dieu, à prendre les choses en main, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous à avoir cet état de grâce et que nous puissions trouver, Seigneur Dieu, ta faveur, de faire la lâche prise, Seigneur Dieu, de vous remettre, Seigneur Dieu, la situation, de te remettre, Seigneur, le problème, cette difficulté, Seigneur Dieu,
et avec toi, Dieu Tout-Puissant, nous puissions, Seigneur Dieu, avoir la victoire. Parce que, Seigneur Dieu, tu nous dis dans ta parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Seigneur Dieu, c'est toi qui écrases, qui va écraser nos ennemis. Les problèmes sont nos ennemis. Sont nos ennemis, Seigneur Dieu. Les difficultés sont nos ennemis, Seigneur Dieu. Nous te prions ainsi. Fais ce miracle dans le cœur de chacun de nous. Dans les cœurs de chacun de nous, ici présents, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen.